Virage Marseille avec Oco, une filtration fiable pour votre eau.
Sur tous les terrains de la vie, soyez protégés. Virage Marseille avec Mutuelle du Soleil. Santé, prévoyance, auto, habitation.
Bonjour à tous. Les temps sont durs pour les entraîneurs à Marseille. Visiblement, il n'est pas facile de rester en place sur ce banc qui, vu d'ici, paraît incandescent. Les tacticiens se succèdent et aucun ne parvient à rester au moins deux saisons. Cette année, deux profils auront tenté de guider le club vers le sommet. Roberto De Zerbi et Habib Bey. Ils n'avaient ni le même parcours, ni le même football, ni la même histoire. L'un était un gourou tactique, un romantique du jeu, un entraîneur moderne. L'autre, un enfant du club, un meneur d'hommes et aussi un homme de discours. L'OM leur a offert cependant un destin commun, une explosion en plein vol. Roberto De Zerbi était pourtant venu à Marseille avec des idées. Habib Bey avec un instincteur, c'est finalement Aubameyang qui s'en est servi. Quelle idée à se demander s'il y a bien un entraîneur capable de réussir ici à Marseille. C'est le thème ce soir de notre émission Les Entraîneurs avec Christophe et Souris. Messieurs, ravi de vous retrouver. Comment ça va ?
Bonsoir, très bien.
Cette fin de saison, comment vous l'avez vécu ?
Ah, comme on disait, on est quand même fatigué. Hein. Je pense que ce soit les supporters, que ce soit les amoureux de l'OM, c'est vrai que c'est compliqué. Il y a eu tellement
surtout
de rebondissements.
Fait, tous les déplacements.
Quand tu vois que j'ai fait tous les déplacements là, pendant un mois et demi, facile. Hein. Donc c'était compliqué. Mais en fait, depuis le premier match, hein, Rennes-OM, en fait, on n'a eu que ça. Depuis Rabiot, ça s'est enchaîné toute la saison, malheureusement.
Le bilan à tout ce début de semaine, on a passé en revue tous ces faits, toute cette saison folle qui était inimaginable. On pensait avoir vécu des saisons terribles où on avait touché le fond et finalement, en fait, l'OM s'est réinventé en matière de crise, quoi.
Oui, et puis on a vécu des saisons, on va dire, compliquées avec beaucoup de déceptions. Là, on vit une saison qui nous a usés moralement, mentalement. Ne serait-ce que regarder un match, c'était parfois une véritable souffrance. Donc ouais, je pense qu'on se rejoint tous là-dessus. C'est là ils nous ont eu physiquement même.
Bon, on va s'intéresser aux entraîneurs. Aujourd'hui, il y en a eu deux, 8 sous l'ère Longoria, 9 si on compte Habib Bey une fois que Longoria a été parti. Donc ça fait des entraîneurs qui ne restent pas deux saisons continuellement. Comment vous expliquer ces deux échecs ? Aujourd'hui, on commence par Roberto De Zerbi. Alors, on l'a aimé, on l'a suivi, il nous a emmené avec lui pendant un moment, et puis au fur et à mesure du temps, les observateurs, les amoureux de l'OM, les supporters ont un petit peu lâché, un peu fatigué de ces compos différentes à répétition. Déjà, votre avis sur le coach italien, que retenir de Roberto De Zerbi ? Souris.
Moi, je dirais un énorme gâchis. Quand il arrive, c'est littéralement, on l'a vu, on ne l'a pas vu arriver, personne ne l'a vu. Ça a été une véritable surprise d'avoir un coach de ce calibre, qui était considéré comme beaucoup, comme étant un des meilleurs coachs européens. Donc une déception totale pour moi. J'ai du mal à tourner la page De Zerbi parce que pour moi il correspondait totalement à la ville, au club et à ses supporters.
T'aurais aimé qu'il reste ?
J'aurais adoré qu'il reste. Alors je sais qu'il y a des détracteurs de Roberto De Zerbi, mais je pense qu'un projet se fait sur le long terme. Lui s'était projeté, il l'avait dit. Et je pense peut-être qu'il s'était peut-être un peu trop projeté, il s'est peut-être un peu trop communiqué là-dessus. Et je pense que dans sa com, finalement, il s'est un petit peu mis des bâtons dans les roues. Et ça lui a un peu porté préjudice sur la fin.
Il a voulu tellement coller à Marseille, coller à l'identité du club. Et il avait tout pour le faire. Il savait comment faire, lui, l'ultra. Il en a peut-être un peu trop fait. Il s'est mis énormément de pression. Et il n'a pas eu au-dessus de lui une direction qui a su calmer les ardeurs, faire retomber sur ses épaules un petit peu cette pression. Toi, Christophe, je sais qu'on a fait toutes ces émissions, comme avec toi, Souris, toutes les années, toute l'année. Au moment donné, tu as lâché. Tu voulais, t'en avais marre.
Oui, j'ai lâché parce que c'est vrai qu'à son arrivée, on avait mis tellement d'espoir sur ce coach et surtout sur ce projet. Moi, je parle surtout d'un projet au-delà de Roberto De Zerbi. Moi, j'attendais de voir un vrai football. Voilà. Moi, l'amoureux du ballon, on m'avait vendu du rêve avec ce coach que je connaissais de nom surtout parce que c'est vrai que ses équipes, au final, moi, je ne les ai pas vraiment regardées. On avait vu Brighton au Vélodrome un peu, mais... Et donc au final, j'attendais vraiment ce football alléchant, droit au but, comme on dit à l'Olympique de Marseille.
Si on est cinquième, c'est, je crois, à la différence de but. Et c'est aussi parce qu'on a pas mal marqué de buts avec lui. Hein. Vous le voyez sur les statistiques compilées par Romain Piette. Voilà qu'on arrive à être cinquième. Mais je suis d'accord avec toi que ça a beaucoup joué à la passe derrière. Voilà. Et qu'on n'a pas eu cette projection offensive qu'on espérait.
J'aurais aimé un peu un mix, voilà, qui, ou à un moment donné, qui se rend compte que ce qu'il propose, ça ne marche pas, et qui, à un moment donné, est moins têtu dans ce qu'il proposait. J'aurais aimé le voir, à un moment donné, plus de jeux directs. Il l'a fait, à un moment donné, sur un ou deux matchs, et après, il est revenu à ce qu'il proposait. Donc. Mais comme dit Souris, c'est une grosse déception, parce qu'on voyait un super projet derrière. Mais je pense qu'en effet, avec un tel coach, il faut derrière des personnes qui sont calmes, qui ont des vrais présidents en retrait. Et je pense que les dirigeants qu'ils étaient autour de lui étaient un peu trop idem, on va dire. Donc c'est ce qui, pour moi, a un peu empêché à Roberto Di Zerbi d'être dans les meilleures conditions aussi.
On l'a vu dans les récentes déclarations de Jonathan Rowe qui l'a fait. Il était toujours un peu trop. Soit un peu trop défensif, soit un peu trop offensif. Il n'y a jamais eu de 0-0, hein, je crois, avec Roberto Di Zerbi. Mais il était, c'est vrai, un petit peu toujours dans le trop. Est-ce que tu penses que les joueurs étaient capables de le suivre à chaque fois, ou c'est peut-être ça aussi qui... Parce qu'à un moment donné, il a dit « je ne comprends plus mes joueurs ».
Pour moi, la capacité d'un joueur, c'est d'être professionnel, donc c'est de savoir aussi s'adapter à ce qui lui est demandé. Il fait ça depuis toujours.
Ah, c'est vrai.
Et puis je pense que là, le discours de Rowe, je suis désolé, le jour où je verrai Rowe devenir entraîneur comme un Zidane et gagner une Ligue des Champions, peut-être qu'il pourra faire des commentaires sur le coaching de De Zerbi. Pour moi, il le voit en tant que joueur. Et puis surtout, un joueur qui n'a pas réussi à s'imposer sous De Zerbi. Donc il y a peut-être une partie de frustration chez lui qui parle. Maintenant, je pense que Roberto De Zerbi, on est tous un peu des coachs quand on analyse sa façon de jouer, mais un coach, c'est aussi gérer un groupe, un vestiaire, des caractéristiques, des blessures, des caractères plutôt. Donc il y a tout ça aussi à prendre en considération. Pour moi, c'était un boulot qui était énorme, sans compter la pression, on va dire, un peu populaire autour de l'OM. Tout ça, il a eu à l'usure. Je pense qu'il n'était pas prêt. Il a su séduire à travers, encore une fois, ses déclarations. Mais voilà, après, des joueurs... Pour moi, eux, ils doivent faire ce qu'on leur demande.
Est-ce que c'est toi aussi, parfois, l'entraîneur aussi, de se dire, bon, là, j'abuse peut-être un peu à faire autant de tournées, à faire autant de compos. Je vois que mon milieu n'a pas vraiment de repères. Hüchberg, il est là, mais il n'a jamais le même à droite, jamais le même à gauche. Est-ce que parfois, ce n'est pas aussi à lui de mettre un peu d'eau dans son vin et de se dire, bon, je vais peut-être écouter ce que dit tout le monde et peut-être stabiliser un petit peu mes choix?
Oui, je suis d'accord, parce que je pense qu'aussi il y a effectivement un manque peut-être aussi d'ouverture. C'est un coach, on sait, tout le monde, encore une fois, je le répète, mais tout le monde a prôné un petit peu son jeu à la De Zerbi, qu'il menait un peu partout, que ce soit en Italie ou en Angleterre. Et il arrive en France, il vient un peu convaincu, en confiance que son jeu fonctionne. Sauf que la Ligue 1, c'est pas la Serie A, c'est pas la Première Ligue. Donc à un moment, il faut aussi s'adapter à ça. Et c'est peut-être là où il s'est dit, bon...
Je pense qu'il a pris un gros coup sur la carafe. Hein. Parce qu'il est arrivé avec tellement de certitudes, tellement auréolé de ce statut d'entraîneur moderne. Et voir que ça ne marchait pas, qu'il avait perdu son vestiaire. Je pense que lui, il a eu une grosse, grosse remise en question. Et on va voir ce que fait Tottenham la dernière journée, là. Mais...
Après, la remise en question, au contraire, moi, je pense plutôt qu'il n'y en a jamais eu. C'est ça que je lui reprochais. À chaque fois, en fin de match, quand on lui posait des questions tactiques, il remettait jamais en cause la tactique. Il disait toujours que c'était du mental, que c'était la faute de tel joueur. À un moment donné, c'est Pavard qui ne comprend pas. À un moment donné, c'est un tel qui ne comprend pas. Et ça m'a embêté, parce que moi, j'attendais un grand coach. Pour moi, un coach, c'est quelqu'un qui sait se remettre en question, qui dit oui, c'est vrai, j'ai fait peut-être là un choix tactique qui n'était peut-être pas approprié par rapport à tel adversaire. Voilà, ça aurait été des petites choses que j'aurais aimé voir en lui. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a vraiment un gros melon, qui pense que c'est un des plus grands coachs. Et ça m'embête, par contre.
Parce qu'au final, c'est vrai que quand on regarde sa carrière, il a encore pas passé ce niveau de coach superstar comme peuvent l'être ses homologues en Première Ligue ou en Espagne ou d'autres coachs français dont on parlera en deuxième partie de virage. Son départ, quand même... a été assez inédit parce qu'il est parti sans fracas, par lui aussi la petite porte, un peu comme Longoria. Il n'a fait aucune déclaration depuis son départ, ça c'est marrant. Hein.
Bah, c'est pas le seul à l'avoir fait.
Si et je puis il s'est assis quand même sur ses primes, hein, sur son
année de salaire.
Alors il y en a un qui s'est pas assis sur ses primes, mais qui est parti un petit peu comme ça par la petite porte et qui n'en a jamais vraiment parlé, c'est Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa qui nous laisse quand même un souvenir incroyable. Mais pourquoi ? Parce qu'il a ramené une idée de jeu, une identité à une équipe, alors qu'on n'a rien gagné. On n'est même pas, je crois, européen à la fin, ou je crois sur le fil, je ne sais même plus d'ailleurs. Mais par contre, Marcelo Bielsa, il s'est mis tous en vestiaire à dos aussi.
Trop exigeant aussi.
Ouais. Lui, c'est un coach, on l'entend, qui a effectivement, il a eu son vestiaire à dos. Alors je ne sais pas si ça, c'est tous les joueurs ont été en tout cas contre lui. Mais malheureusement, ce qu'il va nous, il ne nous laissera pas un souvenir impérissable parce qu'il n'a pas réussi à, développer ce football-là qu'on attendait de lui.
Alors tu que faisais Marcelo référence Bielsa, à Zidane en tant que coach tout à l'heure. Ouais. Tu as raison, parce que ça, c'est une référence. Bon, au-delà du fait que pour lui, c'est facile d'être respecté parce que c'est Zinedine
Zidane. C'est ce que j'allais
dire. Mais je ne vois pas Zizou aller imposer à ses joueurs, parce que maintenant, les joueurs, ils sont comme ça. C'est eux les stars. Ils gagnent des sommes folles. S'ils n'ont pas envie de faire un effort, ils ne font pas d'effort. On l'a vu contre Nantes. Et quand ils leur demandent en camp d'entraînement, enfin, dans les rétiros, de se lever à 3h du matin, d'aller courir dans le noir avec une lampe torche comme des Vikings, ça passe pas trop auprès des joueurs.
Je pense pas que Zidane, pourtant, s'il y a quelqu'un qui pourrait le faire, ce serait Zidane. Par rapport à sa carrière, là, les joueurs, bon. Lui, au final, en tant que joueur, ça a été OK. Après, je respecte sa carrière, mais c'est pas non plus un grand joueur international de football qu'on a connu. Donc, pour les joueurs, ils sont professionnels, ils ont leur salaire. Alors, ils vont le regarder, ils vont leur dire, mais qu'est-ce que tu nous fais, toi? T'es qui?
Pourquoi lui, il le fait, et pas Zidane, tout simplement? Parce que lui a besoin de le faire, apporter de la rigueur, apporter du professionnalisme aussi, et peut-être une solidarité dans son vestiaire. Zinedine Zidane, quand il est au Real Madrid, il est dans un contexte qui est totalement différent. Ça reste le Real Madrid. Donc, je veux dire, l'Olympique de Marseille, on en est loin pour l'instant. Et voilà, lui, il a peut-être besoin de le faire. Voilà, Zidane,
je pense surtout que Roberto De Zerbi se plaçait au-dessus de ses joueurs. C'est ça qui m'a toujours embêté chez lui, en fait. Il s'est toujours mis au-dessus. Et toujours sa communication, l'OM, supporter.
Après, c'est le projet du club aussi. Les dirigeants l'ont placé au-dessus des joueurs.
Exactement.
En faisant de ce projet à 3 ans, le projet de Zerbi. Enfin bon, on va être obligé de marquer une pause et de s'intéresser au futur. On parlera de la fin de saison d'Abi Bey. Est-ce qu'il doit rester? Est-ce qu'il faut un entraîneur qui soit plus calme, français? On va y venir avec vous. Et puis, on vous a demandé vos tops et vos flops, messieurs, mais pas des joueurs, vos matchs que vous avez préférés ou détestés. Le temps de saluer nos auditeurs et notamment Christine qui nous a écrit, très déçu par Roberto De Zerbi. Il n'a jamais réussi à construire une équipe solide, un bloc unique avec au moins 20 équipes différentes. C'est beaucoup plus ma chère Christine. Pas prêt pour Marseille, visiblement. Voilà un avis qui tranche avant la pub. On marque une pause et on se retrouve dans un instant.
Passion fiable pour votre eau.
Sur tous les terrains de la vie, soyez protégés. Virage Marseille avec Mutuelle du Soleil. Santé, prévoyance, auto, habitation.
Deuxième partie de Virage Marseille consacrée aux entraîneurs à l'heure du bilan de cette saison que l'Olympique de Marseille achève à la 5e place qualifiée pour la Ligue Europa. L'OM qui, durant cet exercice, aura connu donc 2 entraîneurs. On a parlé de Roberto De Zerbi pendant la première partie de cette émission. On va parler maintenant d'Abi Bey qui l'a remplacé une fois son départ acté. Abi Bey qui n'aura pas réussi à remplir la mission qui lui a été confiée par ses dirigeants à son arrivée, à savoir qualifier le club pour la prochaine Ligue des Champions. Est-ce que c'est un échec d'Abi Bey? Pouvait-il seulement arriver à le faire? Est-ce que ce n'était pas mission impossible au final?
Pour moi, c'était mission impossible. Je suis certain que tu aurais mis Pep Guardiola, on aurait été dans la même situation. Le mal était trop profond. Quand il arrive, le club, ça ne va plus, que ce soit dans les coulisses, entre Longoria, entre Benatia, dans le club. Et donc, du coup, pour un coach, c'est très compliqué. Alors oui, son amour pour l'OM, son envie d'essayer de sauver le club. Et comme on disait en off, qui peut refuser l'OM? Donc, il est arrivé dans une situation, surtout lui qui a joué. Donc, c'était très compliqué. Moi, par rapport à d'autres supporters qui le sifflent, non, moi, je ne le siffle pas. Pour moi, il a essayé. La marche était trop haute, mais pas que pour lui. Je pense qu'elle aurait été trop haute pour beaucoup d'autres. Mais moi, je lui en veux pas. Il a essayé. On peut pas lui enlever qu'il a essayé beaucoup de choses. Là, on l'a vu mettre Gouiri en 10. On l'a vu essayer des choses. On l'a vu essayer de prendre un jeu direct, plus simple. Aujourd'hui, on a bien vu que ce n'était pas spécialement les choix tactiques à remettre en cause, mais plutôt le moral des joueurs, ce que les joueurs proposaient sur le terrain.
C'était impossible pour lui d'y arriver, Souris.
Ouais,
il a fait quand même quelques erreurs de compo, hein. On peut aussi remettre ça en cœur.
Emerson Medina, ça je remettrai un peu peut-être, où il a mis Emerson de côté après le match face à Lyon, où il a compté sur Medina. Là, je pense qu'il aurait fallu avoir un peu d'expérience que mettre tous les Argentins qui étaient un peu foufous sur le terrain.
Ouais, moi, je pense qu'au-delà des compos, parce que bon, on peut effectivement lui reprocher certaines compos, mais pour moi, il arrive dans un endroit où le terreau n'est pas fertile. Il arrive dans un endroit qui est déjà bien pollué, on va dire, de l'intérieur. On l'a vu dans les petites guerres de pouvoir, avec les égos qu'il y a, le départ de Pablo Longoria, la direction qui se met certains joueurs à dos, des joueurs qui ne sont plus du tout motivés, certains qui pensent déjà à l'avenir, qui ne sont pas capables, ne savent pas s'ils seront là l'année prochaine, certains qui sont prêtés ou ils savent qu'ils partiront, qui ne seront pas conservés. Comment vous voulez réussir dans ce type de contexte ?
Tu n'as plus beaucoup de temps, quoi, en plus.
Et oui, c'est ça. Et puis bon, alors, sans compter l'enjeu qu'il y a derrière, la qualification européenne, il y a tout un tas de trucs de pression. Pour moi, Abibé, il arrive dans un moment, malheureusement, le plus mauvais moment. Et je suis d'accord avec toi quand tu dis que tu peux mettre n'importe qui à ce moment-là. Ça ne fonctionne pas. Puis même lui, il ne sait même pas, je pense, au moment où il est là, s'il va pouvoir réussir à faire quelque chose et même rester. Parce qu'il sait qu'il y a Pablo Longoria qui est parti, il ne sait pas qui va arriver derrière, je pense, à ce moment-là. Donc, il y a tout un tas de facteurs qui font qu'il arrive, il n'y a rien qui va pour lui, en fait. Donc.
Et puis, en plus, il n'est même pas décisionnaire de tout ce qui est autour du pur terrain. C'est-à-dire que quand il est décidé que les joueurs restent à la commanderie, qu'il y ait une sorte de retiro en interne, ce n'est pas lui qui décide ça. Donc, en plus, il subit des décisions qui viennent de la direction. Je le disais un petit peu aussi dans l'introduction, c'est que c'est un homme de discours. Il a beaucoup, beaucoup parlé. Ça lui a été souvent reproché d'expliquer beaucoup trop et à trop expliquer, on n'est parfois pas compris, ou alors on ne voit pas se mettre en œuvre nos propos. Est-ce que ça, c'est aussi quelque chose que vous lui imputez dans cette fin de saison ?
C'est très paradoxal, parce que lorsqu'il était consultant à la télé, tout le monde louait en fait ses capacités d'analyse footballistique en disant « Waouh, incroyable, il connaît le football et sait parler football. » Ah ben là, on voit que c'est différent quand il faut gérer une équipe et le discours passe un peu différemment.
Est-ce que ça ne se retourne pas contre lui ? Parce qu'à l'époque, il était payé pour ça, pour expliquer son avis là. Il est payé pour
bien sûr,
faire.
Mais il était quand même considéré comme étant peut-être l'un des meilleurs consultants en football à la télé.
Mais rien que même ses conférences de presse, tu le vois, c'est quand même un bonheur d'écouter Abi Bey parler. C'est limpide, c'est fluide. Bon, en tout cas, la question qui va se poser maintenant, c'est est-ce que Abi Bey va rester ? Est-ce que vous lui donneriez sa chance pour la saison prochaine ? On a interviewé cet après-midi Mamadou Niang, parce qu'il était en marge d'un prix décerné pour des lycéens. Et c'est son ami, évidemment, Abi Bey, de sélection et de club. Écoutez Mamadou Niang à propos de l'avenir de Abi Bey.
Bien sûr, parce qu'il a eu beaucoup de courage à relever le défi qui n'était pas donné. C'était très compliqué à 7-8 matchs de la fin de pouvoir venir et reprendre cette équipe de Marseille en difficulté. Il a eu le courage de le faire. Il savait que ça n'allait pas être facile, il savait que ça allait être à double tranchant. Mais il n'a pas hésité parce que Marseille, et pour avoir côtoyé Habib, que ce soit en club ou en sélection, je sais que c'est le club c'est son club de cœur, ça l'a toujours été. Donc il ne pouvait pas refuser cette opportunité. Aujourd'hui, il était là. Mais j'ai envie de voir Habib avec un OM qu'il a pris en main depuis le début de saison, avec une préparation estivale en été où il aura son groupe intégralement et qui va pouvoir travailler sur sa méthode de travail, sur son engagement. Et le voir débuter une saison à l'Olympique de Marseille. Après, on pourra le juger par la suite. Mais dans les conditions où il a pris l'équipe, ce n'était pas évident. C'est pour ça que j'ai envie qu'il continue.
Ça, c'est un soutien. Ça, c'est un vrai soutien. Ça rejoint ce que nous dit Roger Dallo, qui nous a écrit « Bonsoir, Roger. Pourquoi renvoyer Abib Bey ? Il ramène la 5e place avec les choix effectués par Longoria et Benassia. Les fautifs, ce sont ces deux personnes. Laissons Abib faire son équipe pour la saison prochaine. Et on verra. Alors, il reste un an de contrat à Abib Bey. Il va rencontrer dans les prochains jours Grégory Lorenzi si celui-ci est nommé directeur sportif de l'Olympique de Marseille. C'est pas encore fait. Mais celui qu'on avait condamné au soir de Rennes-Marseille, de Marseille-Rennes, malgré la victoire, celui qu'on vouait un départ, hein, Finalement, l'idée de nouvelle année à la tête de Marseille, voilà, est là. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je pense que ça sera compliqué. Après une telle saison, surtout que tu vas repartir avec des moyens bien plus limités. Tu sais d'ailleurs pas trop où tu vas financièrement. Tu sais pas quel effectif il va y avoir. Donc, je pense qu'il va falloir repartir de zéro. Et surtout avec un coach qui va permettre aux joueurs de démontrer qu'il a déjà gagné des choses. Repartir avec Bay qui manque d'expérience, pour moi, déjà les supporters n'accepteront pas une deuxième saison comme on a connu là. Donc déjà, il va avoir beaucoup de pression sur le futur entraîneur. Parce que deux saisons, c'est rare que l'OM se casse, comme on dit, les dents sur une deuxième saison. Souvent, on rebondit. Mais pour ça, pour moi, il faut quelqu'un qui va savoir avoir des joueurs et les porter au maximum. Et pour ça, il faut des mecs qui ont de l'expérience. Il faut des mecs qui connaissent le club, oui, mais qui ont de l'expérience. Et pour moi, ça ne va pas le faire.
Rapidement,
pour agir au propos de Mamad, moi je dirais que oui et non, parce que quand il dit qu'il faut qu'il commence une saison depuis le départ avec un effectif qu'il aura construit lui, on a vu ce qu'il a fait à Rennes, ça a été un échec aussi. Il suffit de regarder dans un club qui est quand même dans un niveau bien inférieur à l'OM en termes de popularité, en termes de pression, il n'a pas réussi. À l'OM c'est difficile, donc moi je pense qu'il faut complètement tourner la page cette saison, et malheureusement la tête de gondole c'est l'entraîneur et il faut le changer.
Ok, c'est un avis entendu. Bonsoir, il n'a pas le niveau pour l'OM. Pour moi, c'est non. J'ai pas le nom, excusez-moi, de la personne qui nous envoie. Christophe de la Belle de Mai, qui en revanche est d'accord avec vous. Hein, même Enrique, même Deschamps n'auraient pas réussi à relever le club de l'impasse dans laquelle il était. Voilà. Vos tops et vos flops de cette saison, messieurs. On s'intéresse aux matchs que vous avez préférés ou que vous avez détestés. On va commencer par toi, Souris. Je te laisse nous annoncer ton flop, le match que tu as le préféré cette année de l'Olympique de Marseille.
Mon top, du coup.
Ton top.
Okay. Le match que j'ai préféré pour moi, pour plein de raisons, même de manière symbolique, c'est OM Newcastle.
Une superbe soirée européenne à la maison, malgré quand même une première mi-temps.
Ouais. Mais pour moi, en fait, pourquoi ? Donc, je vais argumenter tout simplement parce que j'ai senti un groupe sur la deuxième mi-temps qui s'est soudé, qui a été à la hauteur de l'enjeu. Et là, je me suis dit à ce moment-là, ok, ça y est, on fait une équipe qui sait jouer ensemble. Je repense au match extraordinaire de Vermeeren. Et vraiment, voilà. Donc, pour moi, c'est le match, surtout contre un cadre européen.
Ouais, parce que Newcastle, il marchait fort. Hein,
ouais, voilà. Pour moi, c'est le match. Le meilleur match pour moi de l'OM cette saison, parce qu'on a eu tout, la souffrance et la victoire derrière avec un vrai collectif.
Et avec un Aubameyang qui nous avait régalé ce soir-là, comme il avait su le faire lors de son premier passage à l'Olympique de Marseille. Ton flop pour le coup?
Mon flop, du coup, ça reste en coupe, et là ce sera OM Toulouse. Ouais. Pour moi là, c'est complètement l'opposé. C'est là les joueurs qui ont complètement lâché dans un enjeu qui était pourtant très important. Et puis au stade, c'était une véritable souffrance de voir que sur chaque corner, on se bouchait les yeux parce qu'on se cachait les yeux, parce qu'on savait qu'on allait prendre un but derrière. Et on voyait des joueurs qui avaient complètement lâché. Donc pour moi, ça, c'est littéralement le match où il y avait un enjeu, beaucoup d'attentes.
Et c'était le dernier enjeu. C'était la seule chose qui nous restait à faire cette saison. C'était aller offrir aux supporters cette Coupe de France. Et face à une équipe quand même qu'on doit battre. On doit battre à ce niveau-là en Coupe.
Complètement.
D'autant plus qu'on sait que le Paris Saint-Germain... était absent à ce stade de la compétition. Je suis d'accord avec ses tops et ses flops. Ensuite, on passe à Christophe. Ton top d'abord.
La victoire face au PSG en championnat, automatiquement. 1-0. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas battu Paris. On a vu des liesses devant le Vélodrome énormes. Donc c'est sûr, rebattre Paris, c'était énorme. Mais au-delà au-delà de cette victoire face au grand Paris Saint-Germain, c'est surtout tout ce qui a suivi derrière. Parce qu'on avait, comme on dit, l'affaire Rabiot, on avait un peu un début de saison calamiteux. Et là, la victoire du Paris Saint-Germain,
l'arrivée... Ce soir-là, on s'est même dit que le départ de Rabiot était un mal pour Amiens.
C'est ça, et on a dit, allez, c'est parti, derrière, tu enchaînes, tu vas battre l'Ajax sur un super match au Vélodrome, tu vas gagner à Strasbourg, qui c'est pas facile de gagner à la Méno. Je me rappelle, tu bats Metz, tu bats Lorient. C'est vraiment toute cette série-là de 4-5 matchs de victoire. On s'est dit, ça y est, l'OM, on parlait de titres, etc.
Donc c'est vrai que moi je les voyais bien en quart.
Voilà, ça y est. Là, je pense que c'est le moment avec De Zerbi où en plus c'était l'arrivée. Il nous avait ramené tous ces joueurs-là, Gerd, tous les nouveaux joueurs. Et c'est vrai qu'on s'est dit, ça y est, c'est parti.
Pourtant,
l'OM
quand on voit
va faire une grosse saison.
Robin Piette nous offre et qui est allé rechercher, on voit que ce match, On le gagne, mais avec un seul tir
cadré. Oui, mais c'est le PSG.
C'est un hold-up. Hein.
Mais et tu prends pas de but. C'est l'un des rares matchs où tu as une victoire sans prendre de but.
Mais t'étais là dans l'intensité. Dans l'intensité et ça, c'était beau à voir. C'est vrai que 16 fautes, moi j'aime bien quand on fait beaucoup de fautes. Alors, dans la limite du raisonnable.
Puis dans la solidarité,
ça veut dire que tu as un engagement et 9 interceptions, c'était quand même des stats qui sont importantes. Ton flop, du coup?
Eh bien, le deuxième, ce sera aussi le classico, comme on dit. Ce 5-0 fait que deux Zerbi derrière s'en va, ça part dans tous les sens. Et là, on se dit, bon, là, c'est vraiment la claque de chez claque, le 5-0.
Avec De Zerbi qui n'est pas là, l'avant-match. Voilà.
Là, pense que la saison est finie, là, déjà. À ce moment-là, dans nos têtes. Alors, on a toujours espoir de dire, bon, derrière, parce qu'au final, le trophée des champions, on avait fait un super match. On ne méritait pas, on pensait le gagner. Mais là, cette claque-là a fait vraiment trop de mal et a tué complètement le club parce que derrière ça s'est enchaîné. De Zerbi qui s'en va, Longoria a suivi. Cette claque-là a fait mal au club. Puis après, tu mets Bruges juste derrière. C'est vrai qu'en désillusion, on pourrait en mettre plein. On pourrait mettre Nantes, mais c'est vrai que celle-là a déclenché beaucoup de choses.
Moi, j'aurais mis Nantes aussi. Comme l'envoie Christophe également sur les messages. Il dit le match allait au Real aussi. Moi, j'ai adoré ce match. Malheureusement, on a perdu et on a été éliminés par la suite. Merci beaucoup, messieurs, pour cette très belle émission. Le temps file, mais on arrive à la fin de cette émission qui est à retrouver en podcast. Je vous le rappelle, si vous avez quelques minutes en voiture, c'est sur toutes les plateforme d'écoute. Merci à vous. Merci pour cette saison d'avoir été fidèle à Virage Marseille, messieurs. Et puis, belle soirée à vous tous. On se retrouve demain pour une autre émission.
C'était Virage Marseille avec Coco, une filtration fiable pour votre eau.
Sur tous les terrains de la vie, soyez protégés. Virage Marseille avec Mutuelle du Soleil, santé, prévoyance, auto, habitation.